C'est un grand honneur de vous présenter le lauréat du prix Nobel du physique.
La pure connaissance scientifique. La tête.
C'est un exercice intellectuel.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter.
3, 2, 1.
Bonjour à tous, en route pour une nouvelle tête au carré. Violaine Ballet est aux commandes de l'émission qui est consacrée aujourd'hui à la fameuse méthode Coué, passée dans le langage courant. Cette méthode a connu ses heures de gloire dans la première moitié du XXe siècle avant de passer en désuétude et d'être raillée. Et nous allons donc découvrir la pratique de l'autosuggestion consciente basée sur une phrase très simple. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Émile Coué, qui est un des précurseurs de la psychologie comportementale et de la pensée positive, et pour nous en parler, je reçois cet après-midi l'historien Hervé Guillemin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Hervé Guillemin, vous êtes maître de conférences en histoire à l'Université du Maine et vous êtes membre du CERIO, qui est le Centre de Recherche Historique de l'Ouest. Et vous publiez aux éditions du Seuil La méthode Coué, histoire d'une pratique de guérison au XXe siècle. Un ouvrage dans lequel donc vous replacez cette méthode dans un cadre historique et dans l'histoire des thérapeutiques. Et vous allez nous raconter, entre autres, pourquoi les anciens combattants de la Première Guerre mondiale ont adhéré à cette méthode, comment Freud et les fondateurs de la psychanalyse ont parlé de la méthode Coué et puis de quelle manière cette méthode est passée dans le langage courant. Les auditeurs nous rejoignent déjà avec les messages sur le site de la tête au carré sur franceinter.com. Je vous retrouve dans un instant. C'est Chantal de Montagny qui a préparé ce dossier avec Lucie Sarfati et Irène Menahem.
Revue de presse dans la tête au carré.
Toutankhamon, le jeune pharaon mort il y a 3300 ans, pourrait bientôt retrouver ses parents. Claude Guibal, la correspondante au Caire de Libération, rapporte en effet aujourd'hui dans les pages grand angle du quotidien que des tests génétiques devraient lever le mystère sur la filiation de cet enfant roi. Monté sur le trône à l'âge de 8 ans et disparu une dizaine d'années plus tard, ce pharaon éphémère était-il le fils de Néfertiti et d'Akhenaton ou bien alors leur petit-fils? C'est ce que doivent donc déterminer des chercheurs égyptiens à partir de test ADN pratiqué sur 4 dépouilles antiques, la momie de Toutankhamon, celle de 2 fœtus retrouvés dans sa tombe et celle du pharaon Amenophis III, père du pharaon Akhenaton. Le chef du conseil suprême des antiquités égyptiennes, Zahi Hawass, a promis d'annoncer les résultats dans un grand show médiatique organisé demain. Si l'analyse génétique établit un lien de parenté entre ces 4 personnes, le voile pourrait donc se lever sur les origines mystérieuses de Toutankhamon. Aujourd'hui, si tous les égyptologues attendent avec un les résultats de cette nouvelle recherche génétique. Certains jugent démesurée la passion qu'elle soulève. D'autres s'interrogent sur les réelles possibilités de faire parler un ADN aussi vieux et probablement contaminé par de multiples manipulations à travers les siècles. Toutankhamon cherche sa maman, c'est donc à lire aujourd'hui dans Libé. Le Parisien aujourd'hui en France s'intéresse de son côté à une pratique illégale et pourtant courante, l'achat de médicaments prescrits sur ordonnance via le web. D'après une étude dévoilée par le quotidien aujourd'hui, 7 millions de Français achèteraient des médicaments sur Internet. Pour avancer ce chiffre, Alexandra Eshkenazi s'appuie sur les résultats d'une enquête européenne menée par les laboratoires Pfizer dans 14 pays et sur un échantillon de 14 000 personnes. Parmi les médicaments que les internautes achètent sans justificatif médical, on trouve des produits destinés à mincir ou à soigner des troubles de l'érection comme le Viagra, mais également le Tamiflu contre la grippe qui arrive en deuxième position. Les cyberpatients préfèrent acheter donc sur Internet car ils pensent que leur médecin ne leur aurait pas prescrit ce médicament, mais aussi parce que certains produits non remboursés sont moins chers sur la toile. L'article du Parisien rappelle que cette pratique est interdite même si à ce jour aucun de ces acheteurs n'a été poursuivi. Si les internautes ne risquent pas grand-chose du point de vue judiciaire, c'est plutôt leur santé qui est en danger, notamment en raison du risque de contrefaçon. La plupart des médicaments contrefaits sont fabriqués en Chine, en Inde ou au Proche-Orient sans aucun contrôle ni traçabilité. Préoccupée par ce phénomène, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a lancé l'an dernier une série d'analyses de médicaments commandés sur le net. Les experts ont découvert des produits sans aucun principe actif, d'autres avec de mauvais dosages ou des mélanges douteux. Le Parisien note enfin que, d'après cette étude, le marché français des médicaments contrefaits représenterait 1 milliard d'euros par an. Et puis enfin dans le Figaro, une autre journaliste s'est penchée sur la toile, c'est Marielle Cour qui indique comment connaître le niveau de radioactivité de sa région en un clic de souris sur Internet. Le réseau national de mesure de la radioactivité de l'environnement vient d'être créé sous l'égide de l'autorité de sûreté nucléaire dans une démarche de transparence, comme l'explique son directeur Jean-Christophe Niel. L'article rappelle que la crédibilité des acteurs du nucléaire a été très sérieusement contestée depuis l'accident de Tchernobyl en 1986, quand le responsable de l'époque de ce même organisme avait déclaré qu'il n'y avait aucun risque pour la France. Le site internet du réseau doit centraliser donc les données récoltées par les laboratoires des exploitants nucléaires, mais pas seulement. Il recensera également les données fournies par des associations comme le CRIRAD, la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, qui sont très critiques sur ce type d'activité industrielle. Près de 200 000 données issues de 130 000 prélèvements sont ainsi mises en ligne sur ce site un peu technique, même si les auteurs l'ont voulu le plus pédagogique possible. L'adresse est www.mesure-radioactivité.fr et il est en ligne sur le site de la Tête au Carré.
La Tête Carré sur France Inter.
Depuis 606 matins, 606 jours que les voisins hurlent de leur fenêtre que je dois la boucler. Ils disent que je suis folle, que c'est moi qui l'ai tué, que mes idées s'envolent, que j'ai tout oublié. Moi je sais que c'est faux, pour qu'ils reviennent, je chante haut.
Les crêpes aux champignons cuisinées par Olivia Ruiz sur France Inter.
La tête au carré.
Est-ce que ça peut se réparer ?
Eh bien, je répondrai à Brigitte que on ne peut en écarter l'hypothèse.
Sur France Inter.
Tous les matins, avant de vous lever, tous les soirs, dès que vous serez au lit, fermez les yeux et répétez 20 fois de suite avec vos lèvres. Assez haut pour entendre vos propres paroles, sans chercher à penser à ce que vous dites. Si vous y pensez, c'est bien. Si vous ne pensez pas, c'est encore bien. La phrase, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, etc. Comme si l'on récitait des litanies. Par la répétition, vous faites pénétrer mécaniquement dans votre inconscient par l'oreille la phrase qui est initiée. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux.
Voilà, et ça va tellement mieux en le disant. La voix d'Émile Coué, donc le père de la méthode qui porte son nom, qui est au cœur de notre dossier cet après-midi dans La Tête au Carré. Je suis avec Hervé Guillemin. Vous êtes donc historien et vous publiez La méthode Coué aux éditions du Seuil. Alors ça, c'est un document de 1923. Il enregistrait d'ailleurs sa voix. Il y avait des disques qui existaient avec sa méthode à l'époque.
Oui, ça fait partie des premiers disques où on enregistre finalement des voix, des disques à vocation thérapeutique dans les années 20. Lui-même enregistre ça aux États-Unis en 1923. Et puis ses disciples, dans les années 30, vont en faire une industrie qui
florissante, qui hein.
Florissante ouais. Effectivement. Quelque chose qui est une forme de préhistoire de ce que l'on connaît aujourd'hui.
Alors on va découvrir avec vous cette méthode qui est passée vraiment dans le langage courant pour comprendre aussi le contexte dans lequel elle a pu se développer. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages sur franceinter.com. Qu'est-ce qui d'abord, vous, Hervé Guillemin, en tant qu'historien, vous a intéressé dans ce travail sur la méthode Coué? Comment on arrive à écrire un livre sur la vie d'Émile Coué?
Plusieurs choses. D'abord, un centre d'intérêt. Mes recherches sont centrées sur l'histoire des thérapeutiques, des méthodes de guérison, et essentiellement du champ, on va dire, du champ psy, la psychiatrie, la psychothérapie, d'une part. Et puis, deuxièmement, je vais dire très honnêtement, le hasard, la rencontre lors d'un précédent travail, d'une description. J'ignorais absolument tout de cette méthode Coué il y a encore 4 ou 5 ans. Mmh. Et je tombe sur une description par un prêtre catholique dans les années 20 de cette improbable pratique. Hein, et en quelque sorte, d'un seul coup, ce qui était pour moi qu'une expression devenait une pratique datée, les années 20. Et donc je tente ici de faire œuvre d'historien et de remettre un petit peu de chair sur cette pratique des années 20.
Est-ce que vous l'avez testé sur vous-même?
Non, je ne suis pas un praticien de la méthode Coué. Je ne crois pas qu'un historien doive s'identifier à ce point-là à son objet d'étude.
Ouais. Alors, vous avez eu d'ailleurs à votre disposition beaucoup d'écrits d'Émile Coué, ou au contraire, est-ce qu'ils sont rares, hein?
Les écrits d'Émile Coué sont plutôt rares. Ses œuvres complètes tiennent dans un petit volume de 100 pages, écrit relativement gros. Mais Émile Coué n'est pas un intellectuel. Par contre, justement, j'ai fait de cette contrainte, de la faiblesse de ses écrits, finalement une motivation pour l'historien. De cette contrainte, de cette absence, en quelque sorte, m'a entraîné à tourner autour de la méthode Coué et à tenter de la resituer dans son contexte et à tenter de la mettre en relation avec l'histoire de la médecine, avec l'histoire de la Première Guerre mondiale, avec l'histoire politique et sociale.
Alors déjà une question de Daniel qui nous écoute à Londres et qu'on salue. Elle vous demande pourquoi cette méthode a perdu sa force de crédibilité alors que l'idéologie du penser positif à tout va envahit et parasite encore les esprits aujourd'hui. Alors ça n'a pas tout à fait disparu, ça renaît depuis quelque temps justement cette méthode.
Ça renaît effectivement après avoir disparu. S'il y a renaissance, c'est qu'il y a forcément une éclipse de cette méthode Coué. La méthode Coué a été en quelque sorte refusée en France. Alors qu'elle s'est développée beaucoup en Europe, aux États-Unis, en Grande-Bretagne.
Et de façon très importante,
façon
on va en
très
parler.
Importante, hein. C'est une vraie mode dans les années 80. Mais en France, il y a eu un blocage extrêmement rapide. Hein, dès les années 23-24, on sent que la méthode Coué ne perce pas autant qu'ailleurs. Donc d'une part, elle a été l'objet, on va dire, d'une construction, d'un ridicule, hein, et la construction d'une proverbialisation que l'on connaît bien aujourd'hui. La méthode Coué, c'est devenu un proverbe très rapidement en France. Et puis, bon, il faut dire aussi que le réseau, parce qu'il n'y a pas qu'Émile Coué, il y a tout un réseau derrière de praticiens, souvent de femmes, quelquefois de médecins, qui, ce réseau s'est cassé la figure après la mort de Coué. En fait, Coué a été connu sur le tard. C'est un homme assez âgé, qui a plus d'une soixantaine d'années quand il diffuse sa pratique et qui meurt
au moment de la
1926.
Première Guerre mondiale. Hein.
Exactement. En 1926, il meurt et ses disciples se déchirent. Et en quelque sorte, en France, la méthode Coué décline. L'autre raison que je vois et qui est très importante, c'est le fait que parmi les successeurs de Coué, on compte Un homme, Alphonse de Chateaubriand, qui est un collaborateur sous l'occupation et qui va en quelque sorte donner une image extrêmement sombre mm-hmm. à cette méthode Coué tout à fait optimiste.
Alors il y a renaissance quand même depuis une petite trentaine d'années,
c'est ça.
Avec l'essor de la sophrologie.
Exactement. Durant la période des Trente Glorieuses, où pas mal de choses vont bien, la méthode Coué est mise un petit peu, est passée sous silence. Hein. Plus personne ne connaît la méthode Coué, y compris ceux qui auraient intérêt à aller voir de ce côté-là, ceux qui commencent à faire des travaux sur la psychosomatique, par exemple. On ne cite plus du tout Coué, on ne sait plus ce que c'est. On la cite à tort et à travers, on ne sait plus du tout ce que c'est. Et finalement, au moment où le contexte de crise devient un petit peu pertinent, dans les années 70, 80, la méthode Coué est redécouverte par des milieux... effectivement, la sophrologie, l'hypnose thérapeutique, dans des milieux qui retrouvent un petit peu ce qui a fait le fondement de la pratique de la méthode Coué. Mmh. Donc il s'agit en quelque sorte...
Donc pour répondre à Daniel, il y a quand même renaissance, hein, depuis les années 70,
me semble-t-il, oui.
Renforcée aussi dans les années 90. Et vous dites bien dans votre ouvrage qu'aujourd'hui, quand on parle de coaching, par exemple, dans l'entreprise, on s'inspire directement de la méthode Coué.
Certains, effectivement, si on regarde qui... aujourd'hui, on va dire dans les 20 dernières années, tente de remettre au goût du jour cette pratique et tente de revaloriser l'image d'Émile Coué, eh bien on s'aperçoit effectivement c'est ce monde du développement personnel, c'est ce monde du coaching d'entreprise mm-hmm. qui a un petit peu tendance, on va dire, à renvoyer sur l'individu lui-même. Et non pas sur la question sociale, mais l'individu lui-même, ses difficultés. Hein. Il s'agit pour l'individu de s'améliorer soi-même dans un contexte devenu très difficile d'entreprise, en temps de crise, en quelque sorte.
Alors pour compléter justement cet aspect, le message d'Éric qui nous écoute à Carcassonne, est-ce qu'on ne peut pas dire, d'Éric, qu'Émile Coué a inspiré tout le courant de développement personnel qui est aujourd'hui tenu par les Américains, cette invention du docteur Coué qui nous dit que l'on peut obtenir ce que l'on veut, que l'on a un pouvoir sur soi-même, c'est toujours ridiculisé, on n'a qu'à se dire qu'il ne pleut pas et on ne sera pas mouillé. Alors effectivement, c'est dans cette lignée toujours. Hein.
C'est dans cette lignée et c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'en fait, Émile Coué est peut-être un des seuls en France, et c'est semble-t-il ce qui fait sa singularité, ce qui contribue à sa gloire, est un des seuls qui va chercher aux États-Unis au début du XXe siècle... déjà, ce qui inspire, on peut dire, le développement personnel, on ne l'appelle pas comme ça à mm-hmm. l'époque, on appelle ça la culture humaine. Et il lit très bien l'anglais, il va chercher des manuels, il va chercher des méthodes américaines de guérison de soi-même, de salut de soi-même, parce que tout cela baigne un petit peu dans l'évangélisme américain qui sous-tend l'idéologie du développement personnel au XXe siècle. Et donc, il y a en quelque sorte, déjà chez Coué, l'inspiration américaine. En plus, lorsqu'il crée sa méthode durant la Première Guerre mondiale, il la diffuse aux États-Unis. C'est là qu'elle devient en quelque sorte ce qu'elle est, hein, une méthode pragmatique, populaire. Et donc, de fait, je dirais que cette histoire est une espèce d'aller-retour entre la France et les États-Unis depuis la fin du 19e siècle et aujourd'hui. Hein, on a l'impression que Coué est une préhistoire du développement personnel. C'est pas faux, mais Coué lui-même s'inspire déjà de méthodes qui existent dès la fin du 19e siècle aux États-Unis.
Je vous propose d'écouter ce sujet qui date de 1981. C'est un micro-trottoir qui avait été diffusé dans l'émission Allegro de Bertrand Jérôme sur France Culture pour savoir justement auprès des passants s'ils connaissaient cette méthode et si elle était encore pratiquée.
Coué ?
Oui, Coué.
Ah non ?
C'est une méthode de contraception.
Non, c'est quand on se dit telle chose, ça va marcher, on se met ça dans la tête.
Quand par exemple on a froid, on se dit j'ai chaud ouais. Et puis on a chaud.
Ouais.
Je connaissais pas le nom, mais je connaissais.
Ouais. Est-ce que vous avez déjà essayé ?
Ouais, quand j'ai froid, ouais. Je me dis j'ai chaud. Et puis au bout d'un moment, comme si j'avais chaud, mais j'ai pas chaud.
c'est formidable. Grâce à la méthode Coué, je parle maintenant deux fois plus vite.
Écoutez, moi et ma femme, nous avions trois filles, nous voulions un fils, grâce à la méthode Coué, c'est formidable. La persuasion, c'est fondamental.
C'est une méthode de persuasion. Même par exemple, quand on est malade, c'est pareil, c'est plutôt psychologique. Quand on est vraiment malade, on peut s'en sortir par la volonté. D'ailleurs, les grands yogistes, c'est ce qu'ils appliquent.
Ah, moi j'y crois beaucoup.
Tenez, j'avais une vieille voiture, hein, l'hiver. Eh ben, je me disais, dès que je me levais, elle va démarrer, elle va démarrer. Eh ben, si je ne me le disais pas, elle démarrait pas.
Moi, toujours, quand je fais la mayonnaise, je me répète, faut que ça prenne, faut que ça prenne, faut que ça prenne, sinon ça prend jamais.
Ah, mon grand-père, il y croyait beaucoup. Il avait perdu ses cheveux, et tous les matins devant sa glace, il disait, ça pousse, ça pousse, ça pousse.
Voilà, c'était en 1981. Voilà ce qu'on disait les passants à l'époque. Une méthode Coué multifonctionnelle, finalement, Hervé Guillemin.
Multifonctionnelle, effectivement, mais il y a plein de choses qui sont vraies, mélangées à quelque chose qui ressemble parfois un peu à un canular.
Oui.
Des choses qui sont vraies, c'est-à-dire le fait qu'il faut qu'il y ait une part de croyance dans cette méthode. Les médecins de la fin du 19e siècle appellent ça la crédivité, un terme un petit peu pompeux, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, on entend bien aussi un petit peu ces moqueries sur ce que peut être l'autosuggestion consciente. Mais c'est effectivement... ça dit bien ce qu'est la méthode Coué. Une méthode d'autosuggestion consciente, c'est-à-dire, après une phase où il s'agit d'être convaincu de l'efficacité, de la concentration sur une seule idée. Et ça se passe auprès d'Émile Coué, à Nancy, hein, on se déplace vers lui, et puis on est convaincu par des expériences plus ou moins scientifiques que finalement, se concentrer sur une idée positive, c'est efficace. Et bien après, on est face à soi, en quelque sorte, et on envoie des messages positifs à son inconscient, hein, le terme est utilisé par Coué, l'utilise le mot inconscient, le mot imagination, un petit peu de manière interchangeable. Et ces messages positifs sont, en quelque sorte, redistribués au corps de manière générale par cet inconscient, par cette imagination.
Donc, action sur la physiologie ensuite, hein, d'abord par l'esprit, ensuite sur le corps.
Exactement.
Avec une des forme, résultats plus ou moins réussis quand même.
Une forme de psychosomatique qui se dit universelle, se dit efficace sur des troubles fonctionnels, sur évidemment des troubles psychiques, sur des troubles, on va dire, à fleur de peau, enfin ce genre de choses.
Alors, qui était-il exactement? Parce qu'il s'appelle Émile Coué de la Châtaigneraie, hein, c'est son nom. Il est né en 1857 à Troyes, donc il décède, vous l'avez dit, en 26 à Nancy. Alors, il n'était pas médecin, il était pharmacien.
C'est ça, c'est quelqu'un qui est finalement un petit peu du sérail. On ne va pas pouvoir l'assimiler au charlatan, parce qu'il est pharmacien, c'est quelqu'un qui a fait les meilleures écoles de pharmacie à Paris dans les années 1880, et un pharmacien qui s'installe et qui fait rapidement fortune. Visiblement, il est devenu à Troyes un pharmacien réputé qui devait déjà pratiquer un petit peu dans son arrière-boutique
sa méthode.
Voilà, et qui devait un petit peu, je dirais, apporter une valeur ajoutée au remède. On est au 19e siècle dans une économie encore du remède. On n'est pas dans l'époque de l'industrie pharmaceutique. Ça commence tout juste, en quelque sorte. Donc le pharmacien comme le médecin apporte quelque chose en plus. Au remède et à la pilule. Et donc ce pharmacien fait fortune très rapidement et il part vers Nancy à la fin du 19e siècle, d'une part pour rejoindre sa femme, ce qui est une belle raison, mais deuxièmement parce qu'il est attiré par une grande école scientifique, une grande école médicale qui est l'école de Nancy. Et qui est l'école précisément qui est une forme de matrice de la psychothérapie moderne. C'est-à-dire qu'il... qui est en concurrence avec la grande école que tout le monde connaît bien, l'école de Charcot, l'école de la Salpêtrière, et qui explique au fond, cette école de Nancy, que eh bien, beaucoup de choses passent par le verbe, beaucoup de choses passent par les mots, et qu'au fond, on peut guérir par les mots.
D'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien Nancy ou qui y habitent, hein, on peut retrouver cette histoire. Hein. Pour ceux qui se baladent sur le parc Sainte-Marie, on a la statue d'Émile Coué. Ceux qui vont rue Stanislas peuvent retrouver l'ancien appartement du docteur Bernheim. Où Freud d'ailleurs était venu, parce que c'est vraiment la grande époque de l'hypnose.
C'est la grande époque de l'hypnose, en effet. Freud rencontre Bernheim comme il a rencontré Charcot, et Freud s'inspire en grande partie de ses travaux. Et Émile Coué, on va dire, forge sa méthode à cette époque, hein, à l'époque de l'apogée de l'hypnose thérapeutique, la toute fin du 19e siècle. Et cette hypnose thérapeutique, elle commence à passer de mode, c'est comme toutes les pratiques, hein, elle commence à passer de mode au début du 20e siècle. Et donc, en quelque sorte, Coué s'inspire de ça, il a ça en héritage.
Voilà, la perte de vitesse de l'hypnose qui était... relativement victime de son propre succès. Mm-hmm. Et donc Coué va arriver avec sa proposition originale.
C'est ça. Parmi les critiques en fait de l'hypnose, outre le fait que bon, ça, comme toute méthode, elle passe de mode, parmi les critiques qu'on fait à l'hypnose, c'est qu'elle a une image en fait très autoritaire. Hein, on a peur des hypnotiseurs. Il y a tout un ensemble de fantasmes qui sont derrière, parce qu'au fond, et même encore aujourd'hui, on ne sait pas trop bien ce qui se passe derrière ces pratiques d'hypnose. Et donc, Émile Coué fait un tour de passe-passe très intelligent, et beaucoup d'autres vont le faire aussi au moment de la Première Guerre mondiale et des années 20, c'est-à-dire qu'il renvoie en quelque sorte le rôle central dans la cure, non pas à l'hypnotiseur, trop autoritaire, mais au sujet lui-même. Et en quelque sorte, voilà, la critique tombe. Il n'y a plus de suggestion, mais il y a de l'auto-suggestion. Mmh. Alors ça, il n'invente rien, parce que l'école de Nancy a déjà conceptualisé ça, mais il est malin, il en fait une méthode.
Caroline nous dit ceci, quand j'étais petite, ma maman me faisait utiliser la méthode Coué quand je me lavais, que j'avais du savon dans les yeux. Elle me disait, ça pique pas, ça pique pas, ça pique pas. Ça marche aussi quand on désinfecte une égratignure. Et je ne crois pas que cela faisait vraiment moins mal, mais au moins ça avait le mérite de distraire mon attention. Donc voilà un exemple de pratique à la maison. Et Alexandra nous écrit de La Réunion. Elle vous demande si la méthode Coué a des contre-indications. Elle pense notamment aux personnes dépressives. Est-ce que ça n'augmente pas leur mal-être? Alors vous n'êtes pas médecin, hein, ni psychothérapeute, mais est-ce que vous avez quand même un élément de réponse, Hervé Guillemin.
Effectivement, vous faites bien de dire que je ne suis pas médecin, que je ne juge pas sur l'efficacité de cette méthode.
Est-ce que vous avez entendu parler de contre-indications?
Alors, entendu parler, non. Il n'y a pas... C'est-à-dire, Coué est toujours très très méfiant. Il ne veut pas tomber dans ce qui serait un exercice illégal de la médecine. Il a failli être condamné pour ça dans les années 20. Donc, il est toujours très très prudent. Pour ce qui concerne la dépression, on s'aperçoit que, effectivement, dans les années 20 et 30, les cas de neurasthéniques, de gens dépressifs dans les années 20 et 30 sont de plus en plus nombreux auprès d'Émile Coué et de ses disciples. Après, voilà, c'est tout ce que l'historien peut dire de manière assurée. Il ne peut pas se prononcer sur l'efficacité ou non d'une méthode.
Détendez-vous bien! Laissez vos membres allongés sans qu'ils se touchent. Je vous prie de fermer les yeux pour ne pas être distrait. Décontractez les mâchoires. Je vous invite à vous abandonner dans une passivité physique et mentale complète. Toutes vos glandes vont sécréter abondamment et régulièrement pour faciliter toutes vos fonctions.
Chaque jour, à tout point de vue, je me sens de mieux en mieux. Chaque jour, à tout point de vue, je me sens de mieux en mieux. Chaque jour, à tout point de vue, je me sens de mieux en mieux.
Sur France Inter.
It's unfortunate that when we feel a storm, we can roll ourselves over, cause we're on. Thank you.
Paradise Circus, Massive Attack et Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de cette Tête au Carré. Hervé Guimin est avec nous cet après-midi. Vous êtes historien et vous publiez La méthode Coué, histoire d'une pratique de guérison au XXe siècle aux éditions du Seuil. Alors, quelle était la clientèle d'Émile Coué? Parce qu'il a eu une clientèle considérable. Quand on lit les chiffres, vous parlez de 15 000 à 25 000 patients chaque année. Alors, lui et ses disciples, hein, mais ça fait quand même beaucoup de monde.
C'est important, bon, certains reviennent plusieurs fois, certainement dans ce nombre, mais c'est effectivement important. Sa clientèle change au fur et à mesure du temps. Au départ, on a une clientèle ouvrière, des employés à Troyes et à Nancy avant-guerre, hein, une clientèle donc assez populaire, qui est la clientèle qui peut fréquenter les guérisseurs locaux. Hein, notamment. Et puis progressivement, on voit apparaître d'autres catégories de personnes, des femmes éduquées, des femmes des classes moyennes, des enseignantes, des infirmières qui trouvent ici, on va dire, une place importante. Elles deviennent souvent les disciples importants de Coué. Hein. Et puis évidemment, progressivement, la clientèle étrangère, bourgeoise, aristocrate.
C'est-à-dire qu'on fait, le pèlerinage vers Émile Coué.
Effectivement. Dès 1921, dès 1922, des Anglaises, des Américaines, des hommes aussi, mais beaucoup de femmes, comme vous le constatez, viennent à Nancy. Elles disent d'ailleurs, et c'est très intéressant pour les thérapeutes, que finalement, ce qui les guérit, c'est déjà le voyage. Le voyage en lui-même. Donc, une clientèle féminine, anglo-saxonne pour beaucoup, qui va après diffuser la méthode en retour aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Voilà un petit peu. Et puis évidemment, progressivement avec les disciples dans les années 30, aussi une clientèle urbaine qui est celle des médecins généralistes.
Jean-Paul nous écrit, alors je lis sur son courriel qu'il fait partie du cercle Coué de Brest. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a encore des cercles autour d'Émile Coué qui existent.
Sans doute.
Oui. Alors il nous dit qu'il vous a entendu à l'occasion d'une émission sur France Culture où vous disiez que ça ne fonctionnait pas cette méthode pour les intellectuels et les fous. Je voudrais rectifier cette affirmation, dit Jean-Paul, qui me semble incorrecte. Émile Coué disait que sa méthode ne fonctionnait pas avec deux catégories de personnes, ceux qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit et ceux qui ne veulent pas comprendre, car les intellectuels peuvent évidemment comprendre la méthode qui est simple mais précise. Alors pour quelle raison ça ne fonctionnerait pas auprès des intellectuels et des fous ?
Moi, il me semble que dans l'esprit d'Émile Coué, il y a l'idée que sa méthode fonctionne sur la concentration sur une seule idée, hein, ce qu'il appelle le monoïdéisme, hein, une seule idée.
C'est la nouvelle religion.
Voilà, il faut se concentrer sur une seule idée pour que ce soit efficace. Et justement, dans son esprit, les intellectuels qui construisent des systèmes complexes ou les fous qui sont dans des phases délirantes, eh bien justement, ne sont pas accessibles à ce type de pratique. Mm-hmm. Donc c'est dans cette optique, me semble-t-il, qu'il faut comprendre l'exclusive, la mise à l'encontre de ces deux catégories de personnes.
Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas? Vous avez des traces écrites là-dessus, des témoignages de patients. Qu'est-ce qu'on en dit de cette méthode? Alors, ça marche bien, donc on peut imaginer que ça donne des résultats quand même.
C'est toujours très délicat de dire, à partir des témoignages des gens qui font partie du sérail, si ça fonctionne ou pas. Ce qui est clair, c'est qu'Émile Coué publie des lettres d'individus, de sujets qui se disent guéris, qui disent aller mieux, mais on est, on va dire, à la frontière entre le témoignage et la propagande. Mm-hmm. Et vous savez bien à quel point, encore aujourd'hui, on peut trouver dans les magazines un certain nombre de témoignages expliquant que telle et telle méthode peut faire repousser les cheveux, pour reprendre l'expression qu'on a entendue dans le micro-trottoir. Donc, se méfier par rapport au témoignage. Là encore une fois, c'est très délicat. Après, les médecins qui font le pèlerinage à Nancy, comme ils faisaient pèlerinage à Nancy à la fin du 19e siècle pour voir Bernheim, disent plusieurs choses. Les neurologues disent c'est néfaste. Mm-hmm. C'est un non-sens.
On les convoque d'ailleurs hein, pour leur demander ce qu'ils en pensent.
Exactement. Hein. Et pour valider la position méthode. Officielle, c'est l'Académie de médecine qui est juste après la mort de Coué. C'est très intéressant. D'ailleurs, quelques jours après la mort de Coué, les disciples veulent en quelque sorte obtenir une reconnaissance d'utilité publique de la méthode Coué. Et ce sont des neurologues parisiens qui, au nom de l'Académie de médecine, disent non, ça, c'est pas de la médecine, donc ça n'entre pas dans le corpus scientifique. D'autres médecins s'amusent un petit peu de la méthode, mais quelques médecins qui font le voyage à Nancy disent au fond, bon, ça serait peut-être intéressant qu'on regarde ça, parce que peut-être Émile Coué nous dit quelque chose de ce qui passe entre un thérapeute et son patient. Hein, peut-être, au fond, à une époque où la psychosomatique est relativement peu pensée dans les milieux médicaux installés, où elle est pensée plutôt en marge, en quelque sorte, de la médecine officielle, eh bien, certains médecins disent qu'il y a quelque chose peut-être à regarder là.
Et c'est un excellent vulgarisateur avant tout, parce qu'il a su rendre accessible un savoir qui, jusque-là, n'était pas forcément applicable à tous. Donc le public s'est reconnu en ça.
C'est très clairement sa valeur ajoutée. Il y a énormément de méthodes du même type. J'en ai retrouvé une dizaine. Des méthodes d'autosuggestion consciente, donc on emploie en plus les mêmes termes, ce sont les mêmes pratiques, les mêmes modes de relaxation, etc., dans les années 10, dans les années 20. Mais ce qui distingue Émile Coué des autres, et ce qui fait, à mon avis, son succès, c'est effectivement ce que vous dites, la simplicité, la vulgarisation, le caractère méthodique, le caractère pragmatique, le caractère méthode d'apprentissage. Mm-hmm. Et ça, très clairement, méthode Coué, Émile Coué, l'a pris aux États-Unis. Il a appris ça, ce que les autres n'ont pas fait.
Norbert nous écrit ce message. Il y a une trentaine d'années, j'ai lu Coué et il disait « S'il vous manque un bras, ma méthode ne le fera pas repousser, mais elle vous aidera à accepter sa perte. » C'est un bon résumé de la méthode Coué, à votre avis ?
Pourquoi pas, effectivement, Émile Coué explique que dans certains cas, dans certains troubles organiques graves, en quelque sorte, il y a une chose, c'est le trouble, et il y a une autre chose, c'est ce qu'on a mis sur le trouble. Et que parfois, la méthode peut agir sur, on va dire, le désespoir qui va avec la maladie. Ça, il l'exprime, effectivement.
Étienne à Neuilly-sur-Seine demande si on peut comparer l'effet placebo en médecine à une sorte de méthode Coué inconsciente. C'est vrai qu'on y pense beaucoup, d'ailleurs, quand on lit cette méthode.
Ça, c'est une question effectivement intéressante. Il y a des travaux en ce moment, depuis quelques années même, de pharmacologues, donc dans l'université, notamment autour de Lyon. Il y a une équipe autour de Lyon qui travaille là-dessus et qui interroge, qui a été recherché, la méthode Coué, pour interroger cette valeur du placebo. Donc oui, en effet.
La méthode Coué, dit Roland, a été adaptée aux États-Unis par le pasteur Norman Vincent Peale avec un succès considérable dans son célèbre ouvrage The Power of Positive Thinking, édité en français sous le titre Le pouvoir de la pensée positive. On en parlait tout à l'heure avec l'auditrice qui nous écrivait de Londres.
Oui, la question est de savoir si Norman Vincent Peale finalement possède un père qui est Émile Coué ou si Émile Coué a déjà pioché dans des méthodes évangéliques, puisque Norman Vincent Peale, c'est effectivement le courant évangélique protestant américain qui, dès la fin du 19e siècle, sous des formes extrêmement diverses, qu'on appelle la cure d'âme, la mind cure, a construit ces méthodes de salut par soi-même et de guérison par soi-même. Et en quelque sorte, la méthode Coué est une tentative de construction d'une mind cure en France, et ce qui n'a pas marché.
Alors, vulgarisateur et homme médiatique, on pourrait le dire aussi, parce que la presse va beaucoup aider aussi Émile Coué dans son ascension. Vous citez l'année 1921, il est en une du premier grand quotidien français, et on parle à l'époque du plus grand optimiste de France. C'est un beau titre.
C'est un beau titre, 1921. Effectivement, c'est le moment de gloire français qui est relativement court. On passe, on va dire, du guérisseur local avant-guerre à l'homme de réputation internationale en passant vraiment par un très petit temps français, 1921. Mmh. Et après, c'est tout de suite la grande mode internationale.
Et quand tout va bien, donc pendant cette courte période, on parle des miracles de Nancy. Mmh. On vous retrouve dans un instant, Hervé Guimin, pour évoquer une autre part justement de la personnalité et de l'époque aussi autour d'Émile Coué, avec un aspect plus politique pour bien comprendre également son personnage. Les messages arrivent sur franceinter.com.
Je vais vous parler d'un sujet d'actualité, la déprime.
Contrairement à ce que l'on pense, la déprime n'est pas du tout due à l'époque, non. Ça vient uniquement du fait que vous avez pris la mauvaise habitude de sans cesse
vous plaindre. J'ai dit vous parce que moi j'ai arrêté. Hein. Ah, c'est terminé, je déprime plus, je dramatise plus. Je vais bien, tout va bien, je suis gay, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi, pourquoi ça n'irait pas.
Et Danny Boone applique lui aussi la méthode Coué dans un sketch qui s'appelle Le Déprimé. Hervé Guimin, donc notre invité dans La Tête au Carré. Vos messages franceinter.com. L'aventurier est la version de Nada Surf.
Où en étions-nous ?
La tête au carré.
On va arrêter là, vous n'êtes pas très concentré.
Hervé Guimin, nous en étions à la méthode Coué, c'est le titre de votre livre aux éditions du Seuil. Et il faut évidemment parler de l'événement qui va bouleverser la donne et la société de l'époque d'Émile Coué, c'est la Première Guerre mondiale. Et vous expliquez bien de quelle manière cette guerre mondiale va aider Émile Coué à imposer sa méthode.
Oui, très clairement, la méthode est née pendant la Première Guerre mondiale. Elle commence à se diffuser en 1916, 1917.
Alors, Émile Coué a 60 ans en 17. Hein.
Oui, il a sa vie en quelque sorte derrière lui. C'est déjà un vieil homme et c'est ce qui le rend extrêmement sympathique à ses contemporains, sans aucun doute. Et la presse lorraine... dès 1916-1917, va exhumer cette méthode Coué pour, alors qu'elle en parle très peu auparavant, pour en faire un instrument patriotique. Hein. Au moment où c'est très difficile, on est dans le dur de la guerre, 1917, il s'agit de motiver en quelque sorte les Lorrains en leur proposant déjà, on va dire, un message positif. Mmh. Et puis... Émile Coué va trouver...
Alors évidemment, il n'est pas mobilisable.
Hein. Ah oui, exactement.
Donc ça joue, oui, pour lui dans...
C'est vrai, la plupart des médecins sont au front, certains sont morts au front, et lui se retrouve avec ses munitionnettes, en quelque sorte, ses femmes, les femmes de son réseau, entièrement disponibles pour recueillir la plainte. La plainte qui a du mal à s'exprimer ailleurs. Les gens, d'ailleurs, le disent bien dans certains textes. Pourquoi est-ce que j'irais me plaindre alors que nos fils sont en train de mourir au front ? Mmh. Et donc, en quelque sorte, il recueille une plainte, il travaille avec des sujets qui sont des réfugiés, des déplacés, des gens qui sont traumatisés, soit directement, soit indirectement, par la guerre. Et puis, il va, immédiatement après la guerre, délivrer ce message. Et il va, par exemple, lorsqu'il part à Londres en 1922, il va organiser des réunions avec les anciens combattants anglais.
Vous parlez de scènes d'hystérie. Hein, avec
exactement,
lui, hein.
Oui, c'est tout à fait surprenant. La presse anglaise, le Times, en parle à longueur de colonne. Il travaille avec des paralytiques, avec des gens qui sont malvoyants, etc. Ça se termine plutôt mal, effectivement. Là, en l'occurrence, bon, on n'a pas des descriptions très précises, mais on sent que ça s'est mal terminé en 1922. Et progressivement, les anciens combattants de la guerre vont former les bataillons de la méthode Coué dans les années 20 et plus encore dans les années 30. Hein. Ce sont eux qui vont transformer ce qui était une pratique de guérison en, on va dire, en discours politique, en discours de transformation de la société. Et ça, c'est tout à fait étonnant.
Avec Émile Coué qui fréquente les conservateurs. Hein, mmh. Et donc, effectivement, ceux qui vont reprendre la méthode, après sa mort, vont aussi alimenter ce courant politique. Hein.
C'est ça. La pensée d'Émile Coué, la méthode Coué, c'est au fond une méthode de remise en ordre. De remise en ordre de soi-même. Et
c'est
de remise en ordre
physique.
C'est
hein.
ça. Et de remise en ordre de la société, de régénération de la société par ce que certains vont appeler la force de la joie. Et donc ça devient un programme politique pour les temps de crise. Mmh. Après 29, au début des années 30, on voit effectivement des médecins, anciens combattants qui nous disent on va prolonger l'héritage de Coué en proposant un programme politique extrêmement conservateur, nationaliste et dérivant vers l'approbation des régimes totalitaires hitlériens ou fasciste. Donc là, en quelque sorte, il y a une descendance politique de la pensée positive qui est tout à fait significative.
Alors, comment se côtoie justement la psychanalyse et la méthode Coué? Freud et Coué ont un an d'écart, simplement. Ils se sont rencontrés, a priori, ou pas, d'abord?
A priori, pas, mais c'est vrai qu'on peut faire, finalement, un parallèle et noter des points de convergence et de grandes oppositions.
Alors, lesquels?
D'abord, les deux pratiques sont, je dirais, contemporaines. Hein, la psychanalyse se construit en même temps que la méthode Coué. La psychanalyse est une création de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. En France, elle se diffuse timidement dans les années 20 et 30, au moment où la méthode Coué se diffuse aussi. Et dans certains pays, elle est confondue. Parce que, par exemple, en Grande-Bretagne, on a l'impression que dans la presse anglaise populaire, on confond assez facilement méthode Coué et psychanalyse, par exemple. Et elle est les deux méthodes sont pratiquées de concert dans certaines cliniques privées suisses ou allemandes. Donc, il y a d'abord, on va dire, deux méthodes contemporaines. Et puis, ce sont deux méthodes qui parlent d'inconscient. Deux méthodes qui parlent d'inconscient, alors que des inconscients qui n'ont rien à voir, hein, mais des inconscients qui sont tout puissants, qui peuvent agir sur le corps. Deux inconscients qui n'ont rien à voir, puisque l'inconscient freudien, c'est un inconscient des tréfonds, c'est un inconscient diabolique, en quelque sorte, qui fait quelque chose avec le mal, alors que l'inconscient coïste, c'est le positif, c'est un inconscient angélique, qui fait évidemment avec le bien. Donc, beaucoup de choses les opposent. Mais on a des textes qui montrent que les psychanalystes, les plus grands psychanalystes du XXe siècle, ont pris position, ont été obligés de parler de la méthode Coué, ce qui est tout à fait surprenant. Mm-hmm. Ce qui prouve que ce n'est pas un objet aussi insignifiant historiquement qu'on veut bien le dire. Freud parle de Coué, immense découverte. Jones, Abraham, les pères de la psychanalyse du XXe siècle. Et qu'est-ce qu'ils en disent? Eh bien, ils en disent d'abord que, la méthode Coué renvoie aux anciennes méthodes hypnotiques avec lesquelles la psychanalyse a rompu, Donc, il y a une claire rupture entre psychanalyse et méthode Coué. Et puis, deuxièmement, ils disent aussi qu'on peut être en quelque sorte un peu indulgent par rapport à Coué, puisque les psychanalystes affrontent des critiques assez similaires à celles auxquelles la méthode Coué doit faire face.
En tout cas, il y a un rejet quand même de la psychanalyse, de la part des couéistes, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, et un rejet antisémite aussi à la base.
Alors, effectivement, on a d'abord un rejet de l'introspection. Coué dit très bien, arrêtez de vous plaindre, ne rentrez pas dans les détails, s'il vous plaît, de votre vie, c'est pas ça qui m'intéresse, mais on va agir sur votre corps. Donc, il faut agir plus que parler. Et ça c'est une idéologie qui fonctionne bien dans les milieux anciens combattants nationalistes, effectivement, antisémites. Certains hommes d'extrême droite sont dans le cercle de la méthode Coué dans les années 20 et 30, et même 40, vous avez raison.
Un message d'Arnaud qui nous écrit ceci. Je suis hypnothérapeute, ericksonien. Je vois toute la journée la puissance des suggestions. Coué, fils spirituel de Bernheim et lui-même contemporain d'Erikson, tous découvrent qu'il est possible, qu'il est impossible pardon, de ne pas communiquer, de ne pas suggérer, changer la direction de la suggestion, l'orienter dans le sens du patient, dans la direction de son bien-être. Tous les jours, j'en use et abuse un vrai bonheur d'aider les patients à s'approprier la leur. Voilà donc pour ce témoignage. Un commentaire, Hervé Guillemin ?
Oui, enfin un commentaire qui me renvoie finalement à la situation du début du XXe siècle, c'est-à-dire le moment où la suggestion thérapeutique d'un thérapeute sur le patient était mise en avant. Il me semble que Coué, justement, essayait de dire que ça s'était dépassé. Qu'il fallait passer à autre chose.
D'ailleurs, vous dites trop de suggestions tue la suggestion, ce qui explique aussi la perte de vitesse de l'hypnose.
Exactement. Alors, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, étant donné que depuis les années 80-90, la psychanalyse est un peu battue en brèche, attaquée, etc., et que les hypnothérapeutes sentent qu'ils ont un petit peu le vent en poupe, ce n'est pas étonnant que finalement, on retrouve dans ses ancêtres, la méthode Coué, quelque chose qui parle.
Alors, encore un mot sur... le statut, on pourrait presque dire, de star américaine d'Emile Coué. Hein. Vous expliquiez tout à l'heure quel était son statut aux États-Unis et sa popularité. Vous dites que des conférences étaient diffusées dans les théâtres de Broadway, conférences d'Emile Coué. C'est insensé quand même.
Il y a une vraie campagne qui est organisée. Hein. C'est très très bien. Tout cela est très bien organisé par des managers, il faut bien le dire. On fait mousser la French touch du vieux bonhomme hypnotiseur. Ça marche très bien. Et on organise des conférences payantes. Ça rapporte effectivement beaucoup de sous. Ça permet de financer le réseau français qui marche pas trop bien à cette époque.
Ouais, Vincent à Paris nous dit les Américains sont spécialisés dans la méthode Coué. Le Yes Weekend d'Obama en serait le plus bel exemple.
On va attendre un petit peu. C'est vrai qu'il a eu un prix L'héritage Nobel.
L'héritage d'Emile Coué jusqu'aux élections américaines. C'est quand même un lien qu'on n'aurait pas osé faire. Mais...
Effectivement, on va attendre encore un petit peu que Obama fasse ses preuves pour voir si c'est seulement la méthode Coué.
On va rester sur la campagne, alors effectivement. Dans la littérature, Louis-Ferdinand Céline, on l'apprend également en vous lisant, est le premier à évoquer la méthode dès 1932. Et la scène se passe justement à New York.
En fait, Louis-Ferdinand Céline est un médecin. C'est un médecin qui voyage aux États-Unis au début des années 20, au moment précisément où Coué débarque aux États-Unis. Donc, il est probable, je dis bien probable, j'en émets l'hypothèse, qu'il ait eu vent de cette mode américaine de la méthode Coué. Et donc, c'est pas étonnant que l'on retrouve chez ce médecin qui est au contact des populations des banlieues parisiennes, les mêmes sur lesquels travaille Coué, et bien finalement qu'on trouve une appréciation très négative, évidemment, puisque Céline est un anti-Coué.
Merci beaucoup Hervé Guillemin pour votre venue dans La Tête au Carré. Merci aux auditeurs pour les courriels. Donc ça s'appelle La Méthode Coué. C'est passionnant et c'est l'histoire d'une pratique de guérison avec donc ce panorama aussi de ce XXe siècle avec toutes ces méthodes et c'est publié aux éditions du Seuil.
Je vais bientôt compter jusqu'à 3. Et quand j'aurai dit 3, vous sortirez de l'état où vous vous êtes. Vous vous sentirez calmes et reposés, forts et vigoureux, alertes et dispo, plein de vie en un mot. 1, 2, 3.